Nous allons passer à la communication suivante, qui est présentée par le professeur Joachim Friedrich Quack de l'Université d'Heidelberg. Alors, la richesse des travaux de Joachim Quack m'empêche d'en faire une présentation exhaustive. Sachez qu'il a travaillé sur la littérature égyptienne à travers donc des éditions de sagesse égyptienne comme celle de Mary Carré ou d'Annie, qu'il s'est intéressé également aux rituels d'époque tardive et puis plus généralement donc au phénomène de la magie et des développements de la religion à l'époque tardive. On lui doit aussi des études fondamentale sur les décans, et puis il est aussi l'inventeur d'un texte exceptionnel pour notre connaissance de la religion égyptienne, à savoir le manuel du temple. Donc le professeur Quack va nous présenter aujourd'hui une communication intitulée « Les traités systématiques des Égyptiens sur les sens de leurs signes écrits ».
Bonjour à tous, merci beaucoup Laurent pour cette introduction. Et donc pour moi, c'est d'abord une question de parler sur la philologie égyptienne indigène. Et bien sûr, on sait qu'elle commence surtout dans les attestations par des regroupements des mots, donc des listes lexicales, les soi-disant onomastiques, dont on a un premier exemple déjà au Moyen-Empire, vers 1800 avant Jésus-Christ, et comme chef d'œuvre bien connu, l'onomasticon Domnemope, datant peut-être de l'époque ramesside tardive ou peut-être déjà de la 21e dynastie. Et ces listes onomastiques ont une survie très riche déjà à l'époque gréco-romaine. Il y en a des exemples bien connus en écriture démotique. Voilà quelque chose qui sera publié bientôt. Et il y en a aussi, bien sûr, des onomastiques en écriture hiératique, dont un manuscrit très substantiel de Tepetunus datant environ du 2e siècle après Jésus-Christ. Et il y en a quelques autres petits fragments encore inédits. Donc, les onomastiques, c'est bien connu. Par contre, les traités systématiques sur les signes de l'écriture, c'est beaucoup rare, beaucoup plus rare d'en trouver des exemples égyptiens. Et il semble que les traités vrais n'apparaissent qu'à l'époque romaine. Pour donner un peu plus de poids à cette constatation, il faut aussi brièvement discuter un fragment de papyrus datant de l'époque ramesside plutôt tardive, c'est le papyrus Turin, catalogue 1969. Et déjà dans sa première édition par Pleite, il a été proposé qu'il s'agirait des signes hiératiques pour lesquels des explications seraient données. Vous voyez bien les grands signes tout à droite, très élaborés, et puis des lignes individuelles. Et ce papyrus a été aussi mentionné quelques fois plus tard comme exemple ancien d'une liste des signes. Alors, si on regarde ce qui est préservé de ce papyrus, voilà une photographie récente, encore inédite, qui montre quelques petits fragments additionnels et un meilleur emplacement d'un des fragments. On s'aperçoit que c'est en réalité un texte hymnique qui commence en haut avec Nefer-Sep-2, donc très beau, et puis un mot qui est en partie détruit, je ne suis pas tout à fait sûr, peut-être c'est Weben, comme est beau ton levé, donc dirigé au dieu soleil. Et on voit aussi très bien, par exemple, j'espère que vous pouvez reconnaître les dieux à quatre têtes de bélier. Et puis, on a partiellement préservé une ligne « C'est lui qui a probablement reconstruit quatre têtes sur un seul nuque ». et puis probablement Serbian Punt qui annonce les merveilles de Punt. Donc ce sont des épithètes bien connues du dieu soleil. Il y a toujours une connexion réelle avec le signe élaboré et la ligne qui suit, mais quand même, ce n'est pas nécessairement une liste de signes telle qu'elle. Donc, pas du tout un traité réel sur le sens des signes, mais disons, les signes élaborés... les signes élaborés à gauche sont de quelque sorte la condensation de ce qui est développé dans toutes les versets qui suivent. Donc, on pourrait relativement facilement transformer ce texte dans un traité systématique si on introduisait, par exemple, un signe métatextuel comme « jet R ». Cela signifie comme il apparaît plus tard dans le papyrus Carlsberg 7. Donc, voilà un manuscrit qui date de la 20e dynastie, 12e siècle avant Jésus-Christ, et qui a des développements en outre pour des traités systématiques. Et la langue de ce texte est relativement contemporain. Il y a définitivement des tournures néo-égyptiennes, comme l'article défini par, et aussi la négation bou. Donc, ce n'est pas du tout un traité très vieil, c'est quelque chose de relativement récent à l'époque où il a été écrit. Et maintenant, je passe à des vrais traités systématiques. Et bien sûr, je dois parler du papyrus des signes de Tanis qui a été découvert dans la maison 35 à Tanis, datant de l'époque romaine. Très souvent, on parle de la maison de Bakhuyu et malheureusement, cette indication est doublement erronée. Sur un plan assez élémentaire, le déchiffrement du nom démotique donné par Pitri selon les indications de Réveillou était erroné. Il ne faut pas lire Bakhuyu, mais c'est très clairement Achaïri. Celui qui est riche, un nom personnel connu de l'époque égyptienne tardive. Donc, ça c'est facile. L'autre chose c'est plus difficile. Est-ce que cette statue montre vraiment le propriétaire de la maison? Et selon une suggestion très convaincante d'Alexandra von Lieven, c'est plutôt un homme égyptien divinisé, donc pas du tout le propriétaire de la maison. Mais passons maintenant au papyrus lui-même. Ce papyrus a été brûlé plus ou moins, donc il est carbonisé et sa lecture est vraiment difficile, même si on regarde l'original. Et en fait, ce qui est beaucoup plus facile à lire que l'original, ce sont des images multispectrales. Vous voyez comment ça se montre dans une première étape. Et si on joue un peu avec contraste et brillance en Photoshop, on arrive à des résultats qui sont assez nets à lire. Je montrerai plutôt des images à trait de Griffiths, mais parfois il y a des corrections nécessaires à faire. Donc, c'est un trait qui s'opère en toujours trois niveaux pour un seul signe. Il y a des signes arrangés en colonne. On a d'abord un signe très élaboré, très beau dessin hiéroglyphique. Puis, il y a le même signe en hiératique. Et puis, aussi en hiératique, il y a l'indication de quoi il s'agit. Par exemple, ici, on voit bien la grenouille et on voit aussi le mot « kerel » qui dessine effectivement la grenouille. Et donc, si on regarde ce qui est linguistiquement possible dans ce texte, il y a quelques solutions, pas vraiment un grand nombre sur le niveau linguistique. Il y a d'abord le substantif simple, ce qui est bien sûr fréquent. Il y a un substantif en annexion avec un autre substantif et aussi un substantif avec une phrase circonstancielle suivante qui sert pour une phrase relative avec après un substantif non déterminé. Et il y a quelques exemples où il semble qu'il y a un IUF 7e comme présent 1 initial des motiques, à vrai dire, je ne suis pas tout à fait sûr s'il s'agit vraiment d'un présent 1 initial ou si c'est plutôt une phrase circonstancielle avec le substantif de référence non pas expliqué. Donc on voit bien les exemples, le phallus, c'est clair, et le bras fort du guerrier avec bien sûr les outils de guerre et Pet Ius Tchechen, le ciel étincelant, aussi bien connu aux égyptologues. Et ici, si c'est vraiment un présent 1 initial, il est tombé, sauf qu'il faut sous-entendre un homme qui est tombé. C'est quelque chose que l'on pourrait peut-être discuter. Ça serait d'un intérêt pour moi aussi. Griffith a proposé qu'il y avait des cas où un petit point servirait à séparer deux explications différentes. Il a donné l'exemple du disque solaire avec les notes Iten, disque solaire, et Heru, jour. J'ai regardé de très près, aussi comparé avec des exemples où la lecture de ce soi-disant point est claire, et je dirais ce point supposé, c'est un N très bref qui apparaît de cette façon dans des textes hiératiques de l'époque romaine, dont, à mon sens, il faut comprendre Iten N Heru, disque du jour. Oui, il y a une indication que je trouve un peu plus intéressante, c'est une forme élaborée de la cœur avec la notice Ip Iuf Maui. Le ma que l'on voit ici n'a pas très bien copié par Griffiths. Donc, ça c'est un peu remarquable. On voit peut-être une forme de cœur, mais de quoi est-ce qu'on pourrait reconnaître que ce cœur est en train de réfléchir? En tout cas, l'explication donne du sens parce que c'est le signe, bien sûr, pour Maui. Et Maui veut dire réfléchir, mais quand même, à l'origine de ce signe, c'était une vase de granit. Donc ça, c'est un cas assez remarquable et un peu extraordinaire. Ailleurs, les notices sont souvent très brefs, donc on peut difficilement les analyser d'un point de vue linguistique. Moi, je dirais que là où on le peut, c'est clairement du démotique. Donc, très récente, c'est à noter, on n'utilise pas du tout une langue sacrée ancienne, on utilise la langue contemporaine. Le début de ce texte est perdu. Ce qui est préservé comme premier signe, c'est le signe de l'abeille, et puis on a beaucoup de signes humains. C'est un peu bizarre, mais c'est possible que l'abeille s'est, disons, tout simplement mise ici parce que l'abeille sert très souvent à écrire le titre roi de Basse-Égypte. Donc on pourrait supposer que dans la colonne précédente perdue, il y avait d'abord un signe humain pour le roi, et puis le signe pour Nézou, roi de Haute-Égypte, et on commence sur la prochaine page avec le roi de Basse-Égypte. Donc on a beaucoup de signes humains. Et je dois dire aussi quelque chose autre qui n'est pas très bien connu, c'est que l'ordre des fragments dans l'édition de Griffiths ne correspond pas du tout à l'ordre des fragments dans les sous-verbes. Si on regarde bien, on s'aperçoit qu'il y a ces petites indications comme Romain 1, puis un A, et puis numéro 1. Cela indique 1 est pour les sous-verbes, A et B sont pour la range supérieure et la range inférieure, et les nombres arabes sont pour les fragments individuels. Donc, l'ordre de Griffiths est une reconstitution à la base d'un travail de restauration qui a commis des erreurs, parfois des erreurs choquantes, normalement des erreurs systématiques, parce que celui qui a fait cette opération était un Anglais et il ne savait pas que l'Égyptien se lisait de droite à gauche. Donc, avec deux fragments, il a généralement inverser la séquence. trop long. Je pourrais parler un peu plus de l'ordre des fragments, mais peut-être pour sauver un peu de temps, je n'entre pas dans trop de détails. Il y a certainement une structure systématique dans l'ordre des signes. Elle n'est pas toujours très facile à comprendre et il faut encore faire beaucoup de travail parce qu'en réalité, un peu plus qu'un tiers du papyrus n'a pas été transcrit et traduit par Griffiths et personne n'a fait le travail après lui. Donc, il reste beaucoup de choses à faire avec ce manuscrit. On peut encore procéder intensement. Donc, quelques calculations globales. Généralement, dans ce papyrus, on a 13 ou 14 lignes d'hiéroglyphes conservées. Sauf la dernière colonne où on n'a que 9 signes et puis ça s'arrête, donc on est bien à la fin du manuscrit. On peut calculer qu'il y avait un nombre pas considérable qui manque en bas de page. Probablement ce sont 2 ou 3 signes qui se sont perdus totalement. On peut les calculer assez bien parce qu'il y a une section dans ce manuscrit qui donne des signes uniconsonantales dans l'ordre de l'alphabet égyptien tardif qui est basé sur l'alphabet sud-arabique, dont on sait très bien qu'après 13 lignes conservées, il manque les positions pour 3 sons, ce qui sont au minimum 3 signes. Il pourrait être plus parce que dans quelques cas, les manuscrits ont 2 signes pour un seul son. Donc, on a au minimum 16 pages par ligne. Et si on fait le calcul, on arrive à un nombre de plus que 500 hiéroglyphes traités. Et il manque, par exemple, plus ou moins tous les signes des dieux anthropomorphes. Donc, on arrive à un nombre de signes qui est relativement similaire à ce que nous avons comme égyptologues dans nos liste moderne, donc il s'agirait vraiment d'un traité qui voulait couvrir tous les signes qui étaient en usage régulier. Et comme je l'ai déjà dit, les explications des signes restent toujours très strictement aux faits. Pas de spéculation. Par contre, c'est tout à fait d'autres choses avec l'autre manuscrit important concernant les traités égyptiens, c'est le papyrus Karlsberg 7. Dont une bonne partie est connue depuis longtemps, avec additionnellement le papyrus Berlin 29006. Ce sont ces deux fragments et le papyrus PSI Inventario Hieratico 10, ce petit fragment. Donc je n'ai pas eu le temps de le monter exactement, mais on s'aperçoit par exemple ici on a Maï, le lion, donc le fragment se rattache exactement ici, on a le signe du lion, ce fragment de Berlin se rattache exactement ici, et ce fragment de Berlin se rattache exactement ici, et malheureusement ici, ce raccord fait par Iversen est fautif. Là, il y a, c'est de la même colonne, mais il y a un peu de lignes perdues entre ces deux. Donc, c'est un manuscrit qui date probablement du 2e siècle après Jésus-Christ et qui provient de Tebtunus dans le sud du Fayoum. Et si on regarde de près, on s'aperçoit ici, il y a toujours un signe hiéroglyphique très élaboré. Et puis, il y a des explications en hiératique et ces explications sont généralement multiples et chaque explication individuelle est introduite avec la notice écrite en rouge « Jet R », cela signifie. Et les signes ont un ordre qui suit ici tout à fait l'ordre de de l'alphabet égyptien tardif. Donc, on commence avec la lettre H qui est ici. Puis, il y a plusieurs lettres qui sont tout à fait perdues. Ensuite, on a dans ce fragment des signes qui commencent avec M et le M se continue ici. Et si on regarde très bien, c'est remarquable. Ici, on a le signe du scarabée. qu'un égyptologue lirait Khepr'el, mais la prononciation démotique, c'est Mech'rel, donc c'est mis dans la section pour M. Et ensuite, en bas de ce fragment, actuellement, on a ici les changements. Ici, c'est Menet, la cuisse, et puis on a K qui commence la prochaine section alphabétique. Et si on connaît, si on sait bien qu'il y avait 25 lettres dans l'alphabet égyptien tardif, on constate que vraiment la plupart du manuscrit nous manque aujourd'hui. Alors, mais au moins dans ce qui reste, on a la plupart du titre original, donc c'est début du travail des signes, des liens, des difficultés, ouvrir des problèmes, lacunes, avec ce qui leur appartient, variante, ce qui advient sur eux pour délier ce qui a été déversé par les dieux et les nobles ancêtres, initiation des coutumes sacrées dans les noms et les cités des dieux, ouvrir, de nouveau, lacunes et plus probablement à restituer, qui fut trouvé sur un rouleau de cuir dans le temple d'Osiris, le premier de l'Ouest, le seigneur d'Abydus, dans une chapelle et fin de la phrase, probablement perdue, on s'attendrait encore à une indication du date. Donc, on a le début d'un texte titré comme Hati A, M, début de ce qui est un titre bien connu des manuscrits égyptiens, surtout les textes de sagesse, mais aussi des compositions scolaires de l'époque tardive, par exemple l'Onomasticon de Tertullus et aussi quelques traités inédits de géographie religieuse. Puis il y a une histoire de trouvailles qui sert à donner plus d'autorité à ce traité. Donc après le traité, on commence par le signe de l'ibis, égyptien Hep. La lettre H, c'est la première lettre de l'alphabet égyptien, comme le savait aussi Plutarque d'ailleurs, et Plutarque savait aussi que l'alphabet égyptien tardif comprenait 25 lettres, ce qui se trouve pleinement vérifié par des découvertes récentes. Donc, pour l'ibis, c'est l'animal lié au dieu Thoth qui est relevant pour la sagesse et l'écriture et la mesure, et ça se on voit bien dans ce qui suit, donc il y a le signe de l'ibis, signifie ibis, signifie mon cœur est descendu quand Ré disait de lui, il est descendu de mon cœur, signifie le bas est descendu, signifie lacune par laquelle on connaît toute chose, signifie c'est la mesure hin, c'est la cinq, c'est le grand des cinq, c'est un titre de Thoth. Qui est sorti de la boîte, c'est la palette du scribe, c'est le décret, lacune, on connaît toutes choses dans ce pays par ses outils qui sont sortis de lui. C'est son doigt à peut-être 14 juin, lacune, tout sur le buisson dans la maison d'habillage pour mesurer ce pays sur ses fondements. Le nécessaire pour écrire, pardon, pour écrire, pas pour écrire, faute de frappe dans le texte. Est advenu et encore lacune finale. Donc c'est relativement élaboré et aussi le signe suivant, le disque solaire est aussi très élaboré. Donc on a le disque solaire, signifie jour, signifie le dieu soleil à son lever le matin grâce à qui tout ce qui existe est reconnu, signifie la grand Enya qui fut initié, lacune. On dessine l'œil comme Énéade. Le disque solaire est advenu de l'œil droit du jour. C'est une vautour femelle, celle qui met une corde à l'arc. C'est la mère, lacune, Tatenen, c'est le mâle. L'uris advient, puis passage peu lisible. C'est Neid qui est réuni à mon corps, et ça se finit de nouveau en lacune. Donc, pour résumer la tendance globale de ces exégèses de signes, la première note dont toujours le lem sample, hep libis ou heru le jour. Et ces lems sont cruciaux pour la position du signe dans l'ordre alphabétique. Dans le cas de libis, les notes suivantes procèdent par des jeux de mots. On a hai ip i, mon cœur est descendu, qui correspond bien à la prononciation tardive hiboi pour l'ibis. Et bien sûr, jeu de mots n'est pas une expression très heureuse, parce que pour les Égyptiens, ce procédé était un moyen de faire du sens du monde en trouvant des relations profondes entre ceux qui sonnaient similaires. Dans quelques cas, donc ensuite, on a des explications de plus en plus théologiques où on exploite la situation de l'ibis comme oiseau du dieu Thoth. Et aussi pour les disques solaires, on scrutine ce qui est en relation avec le dieu soleil à son lever. Il faut aussi noter que dans quelques cas, il y a des explications plus basales sur la nature du lemme. Par exemple, il y a le disque solaire à rayons qui est premièrement utilisé comme henmemet. C'est un groupe de la population égyptienne et c'était un groupe, disons, si traditionnel et si vidé de sens clair que l'on a d'abord indiqué que c'est le peuple d'Atum. Donc, dans des cas où les mots étaient un peu obsolètes, on a indiqué ces explications avant de procéder aux célébrations plus symboliques. Donc, pour explorer les liens possibles au traité d'Aropollon, il faut signaler l'option du papyrus 1457 d'inclure des références aux traditions religieuses ou plus globalement culturelles. Il faut aussi noter qu'ils sont d'une longueur très variable. Il y en a des notes de 4 lignes qui donnent beaucoup de substance, mais parfois il y a des signes qui n'ont que 2 lignes ou même une seule qui n'a pas toujours été remplie. Donc il y avait des signes dont on avait peu de choses à dire. Je pourrais aussi discuter sur la datation de la composition qui n'est pas tout à fait simple. À première vue, la langue semble relativement classique, mais quand même, il y a au moins 2 indications de l'article direct. Il y a un mot d'emprunt du sémotique qui peut difficilement être antérieur à la 18e dynastie. Il y a l'usage problématique du 7e F des verbes de mouvement pour un passé. Donc, ça pourrait être soit l'usage démotique, soit une écriture tardive pour le 7e NF substantivé. Donc là, il y en a des problèmes qui ne sont pas faciles à résoudre. Moi, je préférais y voir une composition de la 18e dynastie, mais je ne suis pas capable de le prouver formellement. Donc, on voit que le papyrus Karsbek 7 donne des explications symbolique, mais il n'y a pas de raisonnement explicite pour prouver pourquoi on utilise un certain signe avec une valeur spécifique. Et le lemme, normalement, est très facile et pas chargé de symbolisme, donc cela se laisse comprendre. Et les élaborations culturelles et religieuses donnent une argumentation implicite que l'usage du signe n'est pas fortuit, mais basé sur des motivations plus profondes. Quand même, jusqu'ici, on ne connaît aucun traité systématique qui rassemble de telles motivations explicites pour l'usage de tous les signes. Par contre, il y en a des notices ponctuelles dans le cadre d'autres compositions qui résonnent explicitement pourquoi certains signes sont utilisés pour certains mots et expressions. Les mieux connues sont ceux du papyrus Jumeyyak et du mythe de l'œil du soleil, mais donc moi je parlerai d'un autre. Oh, et il semble ici, il me manque une image. Qu'est-ce que c'est venu? Ah oui, ordre n'est pas bon ici. Donc, dans le calendrier des fêtes d'Hathor, à Edfou, il y a une notice, on l'a appelé faucon d'or quand. On l'a appelé beau faucon, pardon, il y a une petite erreur ici. On l'a appelé bon faucon quand il était dans le ventre de cette déesse. C'est pourquoi on fera une maison et un faucon y dedans comme nom d'atour. Donc, on voit bien la maison et le faucon y dedans. C'est une écriture très connue pour la déesse Hathor et le texte donne des raisons pourquoi on utilise ce signe. Autre exemple dans le rituel pour accéder à la chambre des ténèbres, c'est une composition très difficile sur le savoir arcane et l'initiation au secret de l'art du scribe savant. Et dans cette composition, on donne une séquence d'explication sur l'attribution de quelques épithètes. Quand il disait paysage comme nom du champ, il le disait concernant les vaches qui labourent. Quand il disait taureau comme nom de l'inondation, il le disait concernant les taureaux qui peinent. Quand il disait reste comme nom du fort, il le disait concernant l'air de battage sous graines. Donc, on a trois entités essentielles pour l'agriculture égyptienne et on explique pourquoi certaines images sont utilisées comme nom de ces entités et il faut souligner l'usage égyptien du mot reine, nom ici, on l'avait déjà dans le calendrier du fait d'Edfou, on utilise cela pour nom de la déité, donc le mot reine ici n'est pas simplement le nom, mais aussi le signe qui sert à écrire ce nom. Et je dirais qu'avec ces exemples, on est déjà assez proche de l'esprit d'Aurapollon. Donc, c'est pour moi le point d'arrêt. Merci beaucoup pour votre patience.